Bonjour à toutes et à tous. Nicolas parlait de retour au premier amour. J'ai un peu l'impression d'expérimenter ça aujourd'hui en revenant dans cette première église où j'ai eu l'occasion de faire mes premières armes. Première période de stage ici à Genève, et c'est un plaisir de vous retrouver toutes et tous, ceux qui sont là, ceux qui sont derrière leur écran, bienvenue. Voilà. Les choses changent et en même temps ne changent pas. Ça fait plaisir de revoir certains, ça fait plaisir de découvrir de nouveaux aussi parmi vous. En parlant de premier amour, se pose aussi une question non pas seulement personnelle mais communautaire. Quel est notre premier amour en tant que communauté, en tant qu'église? Quelle est notre raison d'être qui fait que nous sommes ensemble aujourd'hui en tant que famille, en tant que peuple, en tant que communauté ici à Genève, sur le boulevard de la Cluse? On raconte l'histoire de cette société, de cette côte maritime dangereuse, où les naufrages sont fréquents. Alors, pour essayer de sauver les marins en perdition, les habitants du village voisin ont construit une petite cabane, ont rafistolé une vieille barque pour en faire un canot de sauvetage. Elles se sont organisées, elles se sont relayées pour que nuit et jour, quelles que soient les conditions, ils puissent sortir leur bateau, ramer et aller sauver les marins qui sont en train de se noyer suite au naufrage de leur bateau. Ils sont dévoués, courageux, consacrés, ils ne comptent pas les heures, ils n'ont pas peur du danger, ils sortent de nuit, de jour, lorsqu'il y a la tempête, du vent, des vagues, inlassablement, à la recherche de ceux qui sont perdus. Le temps avance, les besoins augmentent, les nouveaux bateaux sont achetés, on forme des nouveaux équipages de sauvetage, et grâce à l'engagement et à l'énergie de tous, la petite station de sauvetage se développe. Et certains se disent qu'il faut améliorer les conditions pour que ce petit bâtiment qui accueille les naufragés fait un peu peine à voir et n'est pas très confortable. Alors on transforme, on ajoute des lits, on crée une cuisine pour leur faire un repas chaud. Et puis, le temps passe, et certains des membres de cette association de sauvetage n'ont plus tellement l'envie ni la force de sortir par tous les temps sur leur bateau pour sauver les marins en perdition. Alors on décide d'engager des professionnels de sauvetage qu'on rémunère, qu'on forme, qu'on prépare. On améliore la qualité du matériel. Et puis c'est vrai qu'on se sent bien dans cette station de sauvetage. On y a installé un coin canapé, on a mis sur les murs des photos des marins qu'on avait sauvés, des souvenirs peut-être d'un bateau naufragé. On se rappelle avec émotion des belles aventures qu'on a vécues lorsqu'il a fallu sortir par tel temps, dans telles conditions. Et cette maison de sauvetage devient un lieu agréable dans lequel les membres de l'association ont plaisir à se retrouver simplement pour siroter une boisson, pour se rappeler des bons moments, pour faire vivre cette amitié entre eux. Et voilà qu'un jour un grand bateau fait naufrage et que le nombre de marins à sauver augmente de manière importante et que ces marins sont mouillés, sales, certains sont malades, rapportent des maladies venant d'un pays lointain. Alors on décide en urgence de construire une douche à l'extérieur de la cabane de sauvetage pour qu'ils n'entrent pas salir la cabane de sauvetage par leur situation personnelle. Et c'est vrai que lors de la réunion suivante de l'association de sauvetage, les membres sont divisés. D'un côté, c'est la majorité, veulent mettre fin aux opérations de sauvetage parce qu'elles dérangent. Ces marins venus souiller leur maison dérangent fondamentalement la vie de ce club de sauvetage. On n'en veut plus de ces hommes à moitié sales et malades et mouillés et fatigués et désagréables. Et ça, surtout, ça limite leur possibilité de vivre des bons moments dans cette association de sauvetage. Mais il y a un petit groupe d'irréductibles, dirait-on, qui insiste sur le fait que le sauvetage est la raison principale de leur existence et que ce club s'appelle toujours une station de sauvetage. Et lors du vote, le résultat est imparable et la minorité des sauveteurs est invitée à aller construire une autre station de sauvetage un peu plus loin sur la côte pour ne pas déranger la bonne vie sociale de l'association. Au fil du temps, cette deuxième station va grandir et les mêmes réalités vont se révéler. Elle se transforme aussi et par conséquent, on va créer une troisième station de sauvetage et ainsi de suite. Aujourd'hui, dit l'histoire, on trouve sur cette côte maritime un certain nombre de clubs exclusifs tout au long du littoral. Les naufrages sont encore fréquents, mais la plupart des gens ne sont jamais atteints et sauvés. Quelle est notre raison d'être, notre premier amour en tant que communauté chrétienne? Pourquoi sommes-nous là? Et on pourrait essayer d'imaginer sur une échelle, d'évaluer finalement notre réalité, notre raison d'être. Sommes-nous plutôt du côté de ceux qui ont à cœur d'aller sauver ces marins perdus? Ou sommes-nous plutôt de l'autre côté de l'échelle, ceux qui sont bien à l'aise à l'intérieur de la cabane de sauvetage et qui ne veulent pas être trop perturbés par ces incessantes arrivées de marins pas finalement très agréables et confortables? Quelle est notre raison d'être? Club ou association? Et l'image du sauvetage est très limitée. On aurait pu parler d'un hôpital, on aurait pu parler d'une école pour parler de l'église. Beaucoup d'images pourraient nous permettre de comparer ce que nous sommes appelés à être en tant qu'église. Ce matin, pour réfléchir à cette dynamique de notre identité, de notre raison d'être, j'aimerais aborder les choses sous trois angles. D'abord, réfléchir à notre message. Qu'est-ce que nous avons en tant qu'église, ici, adventiste, à Genève, en Suisse romande, comme message à transmettre? Quelle est notre mission? Comment nous partageons ce message? Avec quels outils, quelles attitudes? Et puis, troisième aspect, qui sont les membres de ce club, de cette association de sauvetage qui s'intègre, qui s'implique dans cette mission? Reprenons donc chacun de ces trois éléments. Notre message. Alors évidemment, en tant qu'église adventiste du septième jour, notre nom est déjà un message à lui tout seul, n'est-ce pas? On attend le retour du Christ. On se réunit le septième jour. C'est clair, c'est indiscutable. Je me souviens, lors de mes études de théologie, un de nos professeurs nous lançait le défi à chaque cours de nous préparer à répondre à une question théologique en 3 minutes, le temps d'attendre le train si on était sur un quai de gare en train de voyager. Et il fallait qu'on réponde à des questions très spécifiques. Qu'est-ce que sont les 2300 soirs et matins dans Daniel 8:14, par exemple? En 3 minutes chrono. Et on devait se préparer, et lors du prochain cours, on avait 3 minutes pour expliquer ce texte biblique fondamentalement impossible à comprendre. Comment est-ce que nous résumons, comment est-ce que nous expliquons notre message? Notre nom peut servir. Notre Église, dans l'histoire, a développé une manière de résumer notre identité théologique en 28 points, 28 croyances fondamentales. Mais c'est vrai que 28 croyances, à les apprendre par cœur et à les réciter devant quiconque nous pose la question sur le quai de gare en 3 minutes, c'est pas très facile, hein. 28 divisé par 3 minutes, ça va vite pour réciter les 28 croyances. Eh bien, j'ai trouvé, non, pas moi. Notre Église a trouvé une manière de résumer de manière pertinente, de manière adaptée aux besoins de la société autour de nous, ce message qui est le nôtre. Et j'aimerais vous le proposer. Il est tiré, pour vous prouver que c'est pas moi qui l'ai inventé, il est tiré du site internet de notre Église mondiale. Et en français, il dit ceci: nous pouvons vous aider à comprendre la Bible pour trouver la liberté, la guérison et l'espérance en Jésus. Ça date, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est 2008 que ce texte cette phrase a été créée, préparée. Et depuis, c'est devenu pour moi le message clé de ma foi chrétienne adventiste. Pour trouver la liberté, la guérison et l'espérance en Jésus. Trois mots clés. La liberté. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous cherchons la liberté. Nous vivons dans une société, dans un pays, dans une contrée où une grande part de notre vie est libre. Mais nous savons que l'esclavage ne se contente pas d'être soumis à un dictateur, aussi politique peut-il être, mais à des choses plus internes peut-être, à nos propres convoitises, dit l'apôtre Jacques, à nos désirs, parfois intérieurs, parfois même cachés, inconscients. Nous sommes devenus esclaves de la comparaison, de la compétition, d'où le succès de la publicité. Et voilà que l'évangile de Jésus-Christ nous apporte la liberté, la capacité de vivre sans être soumis aux contraintes de la société. Je suis libre en Jésus-Christ, car mon identité, ma valeur, qui je suis, ne dépend pas de mon travail, de mon compte en banque, de mes notes à l'école, du nombre de followers sur mes réseaux sociaux, de ma couleur de peau, de mon accent, de la beauté de ma cravate. Mon identité et ma valeur dépendent de Jésus-Christ. et de la grâce, du prix qu'il a payé pour me sauver. Et si nous analysons nos croyances fondamentales, j'en ai posé quelques-unes sur cet écran, nous voyons qu'elles sont aussi tournées sur le thème de la liberté, le sabbat. Qui parmi vous aujourd'hui est forcé à travailler? Oui, on doit travailler, mais beaucoup d'entre vous ont la possibilité, la liberté aujourd'hui, de vous arrêter, de vous libérer de ce stress, de cette routine quotidienne. C'est l'un des sens du sabbat. Le jugement, pris avec le bon regard, le thème du jugement, plutôt que de nous faire peur et de nous culpabiliser, nous libère de la peur et de la culpabilité. Romains 8, verset 1, « Il n'y a pas de condamnation suite à un jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Message de liberté, le message du jugement. Le thème de la solidarité, de la communauté, de l'amour du prochain, qui pourrait nous libérer de la haine et du conflit. Et Dieu sait si nous en avons besoin aujourd'hui. Tiens, le thème du grand conflit aussi, qui nous montre que nous avons la possibilité de choisir librement notre camp entre Dieu et son ennemi. Thème de liberté, message de liberté au cœur de ces différentes croyances et d'autres aussi que je ne prends pas le temps ce matin de mentionner. Deuxième mot-clé, la guérison. Nous sommes là pour partager la guérison. Encore un petit peu malade de notre Covid, j'ai pas besoin de vous décrire ce que c'est la maladie. Mais il n'y a pas que la maladie physique dans notre vie, dans notre monde. Il y a la maladie de notre cœur, de nos esprits. La tristesse, la séparation, la colère, la peur, les menaces, l'incertitude, autant de maladies qui nous affectent tous. Et en Jésus-Christ, le Créateur de la vie, la source de la vie, nous pouvons trouver la guérison. Il est le seul capable de réparer ce qui est abîmé en nous, de restaurer nos corps, de réparer nos cœurs et d'apporter la paix et la joie à nos esprits. Et là aussi, notre message adventiste est tourné vers la guérison. Notre message de la réforme sanitaire qui nous conduit à prendre soin de notre corps de manière à prévenir un certain nombre de problèmes par la suite. Encore une fois, le thème du sabbat. Tant de guérison de notre fatigue, peut-être aussi tant de restauration de nos relations avec nos proches que nous voyons peu ou pas durant le temps de travail de la semaine. Tenez aussi le thème du sanctuaire. On aime ce thème du sanctuaire. Et si on le regarde aussi par les bonnes lunettes, on se rend compte que c'est un thème de guérison, le sanctuaire. Jésus, le grand prêtre, nous guérit du péché par son sang. Qui n'a pas besoin d'une certaine forme de guérison aujourd'hui parmi nous et autour de nous? Et le troisième mot-clé, c'est le thème de l'espérance. Là aussi, nous vivons dans un monde où nous nous sommes arrêtés de vivre et de penser à demain. On vit avec un mur devant les yeux. On ne voit plus la lumière au bout du tunnel. On pense à nous-mêmes, mais plus à demain. Le climat, par exemple, qui change, qui met en danger des millions de personnes. Montée des eaux, pollution, manque d'eau et d'alimentation. Et voilà, je ne veux pas assombrir le tableau. Malheureusement, beaucoup de médias se chargent de le faire. Et voilà que notre foi chrétienne, fondée sur la Bible, notre foi adventiste, nous permet d'apporter, d'annoncer les promesses divines qui, elles, sont propres à donner confiance et courage malgré les dérèglements de ce monde. La mort, la résurrection de Jésus, que nous célébrerons dans quelques semaines à Pâques, nous assure un avenir heureux, un avenir satisfaisant, plein, une vie débarrassée du mal et de tout ce qui nous tourmente. Et là aussi, nos croyances vont dans le sens de l'espérance, bien entendu, les prophéties qui nous montrent le chemin jusqu'au moment où nous sortirons du tunnel. Cette attente, cet adventisme, cette attente du retour du Christ qui nous promet un monde débarrassé du mal. Le royaume de Dieu, le lieu, la vie que Dieu nous promet sans fin et sans limite. Voilà notre message résumé en trois mots, mais je crois trois mots pleins de sens et de pertinence. Et peut-être que là, il y a une phrase à dire sur le quai de la gare en moins de 3 minutes. Mais alors comment transmettre ce message? Comment transmettre cette profonde libération, guérison et espérance que Jésus nous offre? Quelle est notre mission, finalement? Peut-être là, il nous faut nous arrêter un moment sur la manière dont Jésus a vécu sa mission sur terre. Comment il a partagé cette annonce du royaume de Dieu? On le sait, Jésus a prêché, mais finalement assez peu. Si vous comptez les versets dans les évangiles qui rapportent une prédication de Jésus, elles sont minoritaires. Jésus a utilisé finalement une méthode assez simple, assez à la portée de chacune et de chacun. Il a réuni autour de lui un petit groupe de 12 disciples. C'est à partir de ces 12 disciples que la mission de Jésus s'est développée. Et nous croyons, Nicolas l'a dit tout à l'heure, je viens ici aussi avec cette responsabilité au niveau de la fédération, et nous croyons en tant que fédération qui coordonnons la vie de nos communautés en Suisse romande et au Tessin, que nous sommes l'Église des disciples, que nous sommes à la suite des disciples appelés à vivre la mission que Jésus leur a donnée. Nous croyons que l'Église, la communauté que vous êtes ici à Genève, Cluse 68, est le lieu à partir duquel cette mission se déroule, comme cette cabane de sauvetage dans l'histoire d'introduction. Et nous aimerons vous proposer trois attitudes de mission, trois attitudes de vie d'église et de vie spirituelle personnelle, trois directions dans laquelle continuer le développement de nos communautés. La première direction, voici le logo qui résume ces trois directions. La première direction, c'est une église proche. Dans son ministère, Jésus a vécu dans une région très limitée. On dit qu'il a parcouru maximum 300 kilomètres de circonférence à pied ou de diamètre. Mais il était surtout proche des hommes et des femmes avec qui il vivait. Ses 12 disciples, il les a mis autour de lui, comme les 12 heures d'un cadran de la montre, tout proche de lui. Il les a formés. Et à partir de ses 12 disciples proches de lui, il s'est ouvert à des gens qui avaient besoin d'aide, des païens, des voleurs, des traîtres, des prostituées, des hommes et des femmes en rupture avec le monde. Jésus les a écoutés, soulagés, encouragés et les a envoyés partager cette bonne nouvelle. On pourrait citer Judas, le traître, Matthieu, le collabo, Zachée, le voleur, cette femme divorcée 5 fois et qui vit avec son ami, un brigand meurtrier qui vit ses dernières minutes sur la croix. Cette capacité d'accueillir, d'hospitalité, ceux qui sont différents, ceux qui ne sont pas comme moi, ceux que peut-être j'aurais tendance naturellement, humainement à rejeter parce qu'ils me font peur, comme ces marins mouillés, sales et malades. Les sauveteurs doivent aller sur l'eau, parfois dans l'eau, pour sauver une personne en détresse. Ils ne peuvent pas rester dans leur salon, dans leur tour d'ivoire, dans leur salle de culte, pour espérer peut-être qu'en lançant une bouée, quelqu'un l'attrape. Une église proche, comme Jésus l'a été avec les disciples, comme Jésus l'a été avec ces hommes et ces femmes qui avaient besoin de lui, et finalement comme une famille, un petit groupe proche, avec des relations saines, avec des relations amicales, fraternelles, qui est prête à passer à l'action. Une église qui accueille chacune et chacun, sans distinction, sans jugement. Une église fondée sur l'amour que Dieu a pour nous et qui agit avec justice et pour la justice. Voilà pour l'attitude d'une église proche, avec ses trois valeurs, famille et petit groupe, hospitalité et alliance et éthique. Cet après-midi, nous reviendrons en détail, en discussion aussi, sur ces différentes valeurs. La deuxième attitude de notre église, ou de l'église que nous voulons développer, c'est une église durable. Et là encore, si l'on revient à Jésus-Christ et dans son ministère avec ses 12 disciples, on voit comment Jésus a préparé le terrain à son départ. Il savait que son temps sur terre était limité, 33 ans, 3 ans de ministère. Et en formant ses 12 disciples autour de lui, Jésus a préparé son départ. Il les a établis, et par la suite nous, son Église, pour être ses mains, sa bouche, ses pieds dans ce monde. En préparant des successeurs, Jésus a pris soin de créer justement une église durable et pertinente sur le long terme. Notre église adventiste existe depuis plus de 150 ans, l'église du Christ existe depuis plus de 2000 ans, c'est-à-dire que Jésus a réussi dans sa vision de durabilité. Et aujourd'hui, nous sommes les héritiers de cette mission que Jésus a donnée aux disciples 2000 ans plus tard. Nous continuons à rendre cette église durable. Je ne peux pas m'empêcher de vous raconter cette brève anecdote fribourgeoise. Voilà, on est 3 fribourgeois au moins ici, Nathalie et Nicolas. Et si vous êtes déjà allé à Fribourg, si ce n'est pas le cas, allez-y, c'est une ville absolument splendide et magnifique. Si vous vous placez à la place centrale, c'est à la place Piton, au centre-ville de Fribourg, et si vous choisissez le bon angle de vue, en vous tournant à 360 degrés, vous pouvez apercevoir au moins cinq monastères habités, actifs aujourd'hui, avec des frères ou des sœurs qui y vivent, qui ont différents ministères. Et l'un de ces monastères, c'est le monastère de la Mégroge, en bas de la ville, au bord de la Sarine. J'ai eu l'occasion d'aller à quelques reprises le visiter et discuter avec du personnel sur place. Et un jour, la sœur principale, responsable, nous a raconté comment ce monastère, dédié à la prière et à l'intercession, était ouvert depuis plus de 500 ans et que depuis son ouverture, elle n'avait jamais cessé de prier, jour, matin et soir et nuit. Malgré les guerres, malgré les famines, malgré les incendies qui ont ravagé la chapelle, les sœurs de ce monastère se sont relayées pendant plus de 500 ans, sans aucune interruption, pour prier et pour intercéder. Quel exemple de durabilité, là aussi. Jésus a montré par son exemple que l'Église est durable quand elle est construite, par exemple, sur des responsables au service, et non pas qui attendent d'être servis. Jésus lui-même est venu pour servir et non pour être servi. Il est venu pour donner et non pour recevoir. Jésus nous a aussi démontré la nécessité de former, d'accompagner les nouvelles générations. Parfois, comme il l'a fait avec les disciples, il a dû corriger certains défauts ou certains dérapages. Et puis Jésus nous a montré aussi que la création, la nature, son œuvre finalement à l'origine, est d'une valeur absolument fondamentale. Il a pris tellement d'exemples d'animaux, de paraboles basées sur les plantes, le monde naturel autour de lui, les lois physiques du monde, qu'il nous a finalement laissé en héritage l'écologie. C'est-à-dire de construire une église qui se soucie du monde dans son entier, tant les humains que la vie biologique que Jésus a créée lui-même. Troisième direction, troisième attitude de l'Église, une Église vivante. Vous savez, les 12 disciples, je sais qu'il y a quelques profs dans la salle, les 12 disciples ne sont pas restés enfermés 10 heures par jour dans une salle de classe à noter méthodiquement les leçons de Jésus. Au contraire, ils étaient actifs, ils étaient en action, ils étaient dehors, ils ont vu Jésus, ils ont fait eux-mêmes. Leur mission était d'abord fondée sur cette notion de la vie. Ils étaient là pour semer la vie, pour redonner la vie à ce qui avait été abîmé, sali par le péché. Une église vivante, c'est une église... Alors, malheureusement, il y a une petite erreur dans mon PowerPoint. Une église vivante, c'est une église dont la spiritualité est authentique. On y reviendra cet après-midi. Une église qui vit un culte en esprit et en vérité, non pas figée dans des traditions immuable et rigide. Je me rappelle, depuis tout gamin, comment avant chaque repas, mais littéralement chaque repas, mon papa fait exactement la même prière mot à mot. Ça vous dit quelque chose? Vous avez le même papa que moi? Oui, on est tous frères et sœurs. Mon papa fait la même prière mot à mot. Et c'est arrivé à certains moments qu'il aille prier, et le temps que les assiettes soient servies, que les plats soient amenés sur la table, que tout le monde soit prêt à manger, qu'il attende. Et on lui dit, papa, c'est bon, tu peux manger. Ah ben non, il faut qu'on fasse la prière. Mais il avait prié 3 minutes avant. Il avait oublié, par habitude, par tradition, par répétition, d'avoir déjà fait cette prière 1000 et 1000 fois répétée. Papa, je t'aime, t'inquiète pas. Jésus a démontré qu'une mission et qu'une église vivante est aussi fondée sur le service. C'est la deuxième valeur qui n'est pas corrigée ici. Servir, mais elle est là. Elle est là, votre valeur du service, vous l'avez aussi, et tout le monde l'a. Servir, c'est répondre aux besoins des autres sans attendre de merci ou de récompense. Quand un homme et une femme s'approchaient de Jésus, il a toujours répondu à leurs besoins essentiels, donner la vue à un aveugle, guérir un paralytique, ressusciter un mort, nourrir un affamé, libérer un démoniaque. En répondant aussi aux besoins, en servant les hommes et les femmes autour d'eux, Jésus et les disciples ont apporté au monde ce dont ils ont plus besoin et que nous avons déjà parlé tout à l'heure, l'espérance, de trouver une lumière au bout du tunnel, d'avoir une raison de se battre, de se lever chaque matin malgré les difficultés. Et nous croyons que l'Église, notre Église, cette Église proche, durable et vivante, peut accomplir cette mission d'être les disciples de Jésus et d'apporter au monde cette liberté, cette guérison et cette espérance. Ce petit flyer, vous pourrez le prendre à la sortie où il résume, il décrit ces 9 valeurs que je viens de commenter brièvement. Et on en reparlera aussi cet après-midi avec une petite vidéo. Finalement, dernière étape, ça rimait bien, mission, message, mission, membre. Ce qui est essentiel pour partager ce message et vivre cette mission, eh bien ce sont les membres, n'est-ce pas? Les disciples ont eu de la chance, eux, ils avaient Jésus, qui a pas tout fait, mais qui en a fait beaucoup, et qui avait des moyens de faire peut-être différents des leurs. Mais eux, ils ont eu ces 3 ans de formation, 100%, avec le meilleur prof possible. Et puis, lors de la Pentecôte, ils ont reçu cette vision, cette mission, cet esprit, ces langues de feu, qui leur a donné clairement la direction à suivre. Et ensuite, ces disciples, ils sont partis, comme de vrais professionnels, employés à 100% pour la mission de partager l'Évangile. Peut-être comme plusieurs d'entre vous, quand j'étais enfant, j'ai rêvé d'être pilote de ligne. Ouais, je voulais piloter un avion, voyager dans le monde entier sans payer et en étant payé, c'est pas le pied. Alors j'ai commencé par fabriquer des petites maquettes en plastique dans le fond de ma chambre. J'en sens encore l'odeur de la colle révèle, pour ceux qui connaissent. Par la suite, j'ai fait des avions en papier, des avions télécommandés, j'en ai même encore dans la boîte entière dans mon garage. Et quand j'ai eu les moyens, je me suis dit, c'est maintenant que je peux commencer mon école de pilote. Alors je me suis inscrit à l'école de pilote la plus proche de chez moi, la Blecherette à Lausanne, et j'ai pris le premier cours disponible, cours de météorologie. Alors, entre la force de Coriolis, les différents types de pression atmosphérique calculés en bar, en psi ou en je ne sais quoi d'autre, et surtout, apprendre le nom des nuages, j'ai très vite arrêté mes cours de météorologie et donc mes rêves de devenir pilote professionnel, d'autant plus qu'avec les lunettes, ça aurait été difficile. Alors, j'ai décidé de trouver une autre manière de piloter et de voler. Le moins cher et le plus simple possible, le parapente. J'ai donc appelé l'école proche de chez moi. On m'a donné rendez-vous un dimanche matin à 9h sur le terrain d'atterrissage pour mon premier cours de parapente. Waouh, je vais voler! Je suis arrivé sur ce terrain, il y avait une petite cabane au fond, je me suis approché, il n'y avait personne, sauf un homme étendu sur une chaise longue. Je dis, probablement que c'est lui mon prof, s'il n'y a personne d'autre ici. Et quand je me suis approché, j'ai vu cet homme avec des béquilles posées par terre et un plâtre autour de sa jambe. Oui, c'est moi le prof. Ah, j'ai eu un accident il y a 6-8 mois, je me suis cassé la jambe à l'atterrissage. Ah, on va commencer la leçon tout de suite. Lui, le professionnel, l'expérimenté, celui qui doit m'apprendre à voler en sécurité, qui s'est cassé la jambe, je vous avoue que j'ai fait 2 dimanches dans cette école et que j'ai changé d'école. Et je me retrouve donc un dimanche plus tard dans une autre école. Et là, le moniteur, le directeur de l'école me prend dans son bureau avec plein de photos magnifiques au mur. Il m'explique toutes les étapes que je vais devoir suivre pour être pilote de parapente. Les cours théoriques, l'apprentissage au sol, le premier vol solo, et puis le moment d'acheter mon parapente, etc., etc., etc. Mais il me dit, avant que tu commences, on a un cadeau pour toi. On t'offre un vol biplace, un vol tandem. Tu vas pouvoir faire un premier vol juste en profitant du paysage, en n'ayant rien à penser, juste profiter. Il m'a dit, mais moi, je suis occupé, j'ai déjà d'autres élèves, alors je te confie à notre instructeur chef, qui est le meilleur pilote que je connaisse. Ce pilote, il est instructeur, donc il a un très haut niveau. Il est pilote d'essai, ça veut dire que quand une entreprise fabrique une nouvelle voile de parapente, il lui donne à lui pour la tester. Vous voyez le niveau du gaillard. Et en plus, il est dans l'équipe nationale d'acrobatie. Donc il vole par tous les temps, par toutes les météos, dans toutes les régions du monde. C'est le pro par excellence. Et c'est lui qui va te faire ton premier vol biplace. On est monté au-dessus du lac Léman, au-dessus de Villeneuve, les Alpes en face, Château de Chillon là en bas, le Valais de l'autre côté, les glaciers, magnifique vue. Il a préparé sa voile, il m'a donné mes instructions, mis mon harnais. Quand tout était prêt, il m'a dit, viens là, je vais t'accrocher à moi. » Il a pris les deux mousquetons, il les a accrochés à son harnais à lui. Il m'a dit, « Maintenant, quand je te dis top, tu cours et tu verras. » Il a préparé la voile, elle est montée au-dessus de nous, comme sur cette image. Il m'a dit, « Mani, maintenant, cours !» J'ai fait trois pas, je volais. Avec une petite nuance. Je volais comme ça. En marche arrière. Lui était là devant moi, la tête au-dessus de moi, à voir le paysage, et moi j'étais là derrière à le regarder. Il a eu tellement honte qu'on a atterri dans un petit coin du terrain d'atterrissage pour que personne le voie, en me disant « Tu dis rien à personne, s'il te plaît. » Ce qui s'est passé, c'est que lui, le grand pilote professionnel, m'a accroché à l'envers. Il a juste inversé les mousquetons. Résultat des courses, j'ai droit à un deuxième vol biplace gratuit. Les professionnels sont-ils toujours plus compétents et engagés que les autres, que les amateurs, les bénévoles, les volontaires? Reprenons ce texte d'un Pierre chapitre 2, verset 9. Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté. Vous savez, dire que nous sommes des prêtres, et on va s'arrêter sur ce mot pour conclure, dire que nous sommes des prêtres, dans le langage judéo-chrétien du premier siècle, c'est pas très courant, voire peut-être même un peu scandaleux, parce qu'on le connaît, nous, aujourd'hui, les prêtres avaient plusieurs caractéristiques. Ils venaient tous de la même famille, de la même tribu de Lévi. Ils avaient une fonction spécifique une semaine par an ou plus, mais à cette semaine-là seulement, ils étaient en fonction dans le temple. Et puis, ils avaient la mission d'aller là. Ils avaient le droit, la responsabilité d'aller dans le sanctuaire offrir les sacrifices matin et soir. Les prêtres, c'était les professionnels de la religion de l'époque. C'était des élus pour une tâche professionnelle unique. Ils avaient un rôle apparemment saint, unique, et une certaine forme de supériorité par rapport au reste du peuple qui n'avait pas le droit d'accéder au temple. Alors pourquoi Pierre, et à sa suite les autres apôtres et le Nouveau Testament, peut-il affirmer qu'aujourd'hui, les croyants du 1er siècle et du 21e siècle sont des prêtres, puisque nous sommes tous des prêtres royaux? Alors même que nous ne faisons pas partie de la tribu de Lévi, enfin, pas à ma connaissance, que nous n'avons peut-être pas fait d'études de prêtrise officielle, ni même de boucherie et de sacrifice, que nous ne sommes peut-être pas payés, que nous ne sommes pas engagés professionnellement par la communauté ou par l'Église. J'aimerais évoquer rapidement les raisons qui font que Pierre peut dire et affirmer qu'aujourd'hui, vous êtes des prêtres. D'abord, nous sommes tous prêtres. Car nous sommes tous enfants de Dieu, serviteurs et disciples. Et à ce titre, nous sommes tous appelés à servir Dieu et notre prochain. Paul dira qu'en Dieu, il n'y a plus de différence entre les humains, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de juifs, de grecs, d'hommes, de femmes, d'esclaves ou d'hommes libres. Deuxièmement, nous sommes tous prêtres, car nous pouvons et nous recevons tous le Saint-Esprit qui nous habite, qui nous prend, qui nous transforme et qui nous équipe pour la mission. Troisièmement, nous sommes tous prêtres parce que justement nous avons tous reçu la même mission, celle de partager la bonne nouvelle du salut et du retour de Jésus-Christ, d'apporter la liberté, la guérison et l'espérance. C'est cette mission qui définit notre rôle, notre raison d'être en tant que croyants et en tant qu'Église. Quatrièmement, nous sommes tous prêtres parce que, croyez-le ou non, vous avez tous reçu des dons du Saint-Esprit. Non pas des talents ou des compétences, des dons de l'Esprit. Paul fera plusieurs listes dans les évangiles, dans les épîtres, en parlant de l'Église comme d'un corps. J'ai pas besoin de vous donner les détails, il y a une tête et puis il y a les autres. La tête c'est le Christ et les autres, ils sont tous pareils, dit Paul. Je me suis imaginé ne pas servir selon mes dons. Si j'étais une main et que je commençais à marcher sur les mains, mes expériences de clown ne sont pas allées aussi loin d'être capable de marcher sur les mains. Et si j'étais un pied et que je voulais écrire? Pas sûr que quelqu'un puisse lire ce que j'écris. Quels sont vos dons? Savez-vous quels sont vos dons de l'esprit. Non pas vos compétences, vos talents, vos spécialités, mais vos dons, les dons spécifiquement que l'esprit vous a donnés pour la mission. Et si nous servons selon nos dons, si la communauté reconnaît les dons des uns et des autres et, excusez-moi du mot, utilise chacun selon ses dons, alors tout le monde va être engagé parce que tout le monde a des dons. Il n'y aura plus de conflit ou de jalousie parce que je ne pourrais pas dire « Ah ben non, moi j'aimerais être comme lui ». J'ai mon don, j'ai ma raison d'être, le Saint-Esprit m'a donné ce qui est nécessaire pour moi et pour la communauté. La mission sera plus efficace. On arrêtera d'écrire avec nos pieds et de marcher sur nos mains. Quels sont vos dons spirituels? Comment les mettez-vous au service de la communauté et de la mission? Et dernièrement, nous sommes tous prêtres. Parce qu'en fait, et c'est peut-être là qu'on aurait dû commencer, un prêtre n'est pas quelque chose de si spécifique, de si spécial que ça. Si on devait traduire le mot prêtre dans un langage plus quotidien, plus courant, eh bien on pourrait le traduire par le mot pont. Vous êtes des ponts. Parce qu'un prêtre avait la fonction d'un pont, relier deux parties. Relier la rive gauche de la rive droite. Relier l'humanité avec Dieu. C'était le rôle des prêtres dans l'Ancien Testament et c'est le rôle des prêtres, vous, aujourd'hui. Et pour être un prêtre relié, qui relie, il vous faut deux caractéristiques. Vous allez me dire si vous les avez. La première chose, c'est qu'il faut connaître les hommes, c'est-à-dire l'entrée du pont. Est-ce que vous connaissez les hommes, les humains, j'entends? J'aurais tendance à dire que oui, que chacun d'entre vous connaît un petit peu l'humanité. À ma connaissance, vous êtes tous des êtres humains. Deuxième caractéristique, vous me direz aussi si ça vous concerne, il faut connaître la sortie du pont, c'est-à-dire Dieu. Est-ce que vous connaissez Dieu? Plus ou moins, un peu mieux chaque jour, on essaye, on fait des expériences. Mais on est en chemin dans cette connaissance vers Dieu. On est là parce qu'on le connaît et qu'on veut plus le connaître. Ou qu'on désire le connaître, si c'est la première fois que vous êtes là. Dès lors que vous correspondez à ces deux critères, connaître les humains, entrée du pont, et connaître Dieu, sortie du pont, vous êtes des ponts, c'est-à-dire des prêtres, entre Dieu et les hommes. Qu'est-ce que l'Église? Quelle est sa raison d'être? Quel est son message? Quelle est sa mission? Et quel est le rôle des membres? Notre message que nous partageons avec Olivier, avec d'autres collègues aussi dans les églises de la Fédération, c'est que nous croyons qu'en tant qu'Église, en tant que Fédération, en tant que famille, ici, à Genève, en Suisse romande, au Tessin et partout ailleurs, nous sommes chacun des disciples, des prêtres, et que chacun d'entre vous est l'Église. Notre prière, notre vœu, notre engagement, c'est que chacun puisse trouver sa manière, non pas la mienne, sa propre manière de vivre et de partager l'Évangile à l'Église, mais aussi dans son quotidien, auprès de ses amis, ses proches, ses voisins. En tant que fédération, notre appel, notre engagement, notre désir, c'est de vous encourager et de vous aider à développer vos propres attitudes de mission et de témoignage.